Épilogue, Allemagne, 11 septembre 1942. Elisa Wagner regarde de nouveau sa montre, 19h. Il est temps de prendre la route pour Zingen. Ses hôtes sont arrivés une heure plus tôt, après un long voyage à travers la campagne. Les présentations ou les retrouvailles ont été rapides, et Violette a invité Kristen à se changer pour l'avant-dernière étape. Il a passé le smoking 3 pièces qu'elle a acheté pour lui à Fribourg, et elle-même s'est glissée dans une longue robe de mariée. Tull Bahadur fera le chauffeur, et les 3 autres, Jutta, Martin et Jackson, seront les témoins. Le problème, en effet, est de se rendre à Zingen, dernière bourgade importante avant la frontière. Elisa le sait, dans toute cette zone, les contrôles sont fréquents, car il est assez facile de pénétrer en Suisse, puisque 3 petits morceaux du territoire helvète, entre Gunzgen et Öningen, sont situés du bon côté du Rhin. De Zingen, on passe en Suisse à pied sec. Par leurs espions de l'autre côté de la frontière, les Allemands savent qu'un prisonnier de guerre anglais, échappé du camp de Colditz, a déjà utilisé ce chemin en janvier. Il faut d'abord atteindre Zingen, où Elisa a rendez-vous avec son vieil ami contrebandier. Dans la pratique, Kristen et Tappa n'ont plus de pièce d'identité, puisqu'ils ont à jamais abandonné leur statut diplomatique. Jutta et Martin Wurz ont bien leur passeport volé de l'Abwehr, mais ceux-ci ne seront d'aucune utilité si des soldats ou des SS les surprennent dans cette région sensible. Elisa elle-même n'a aucun document. Seul Eric Jackson a de faux papiers en règle. Mais quelle police aurait l'idée de vérifier l'identité d'un couple qui, à l'évidence, vient de se marier? Les bouteilles de champagne en attestent, et Elisa a disposé des fleurs sur la plage arrière de son cabriolet Mercedes, ressorti du garage pour ce dernier voyage. Jutta, Martin, Jackson et Kristen s'entassent dans la voiture. Tappa, casquette de chauffeur sur le crâne et Kukri sous la cuisse droite, s'installe au volant, tandis que Violette, un bouquet à la main, prend place à ses côtés. Tous sont armés, mais que pourrait faire cette petite équipe de 6 personnes face à la puissance de feu d'une patrouille? Il leur faudra passer au sourire et à l'esbrouf. Ils passent en effet sous les applaudissements des jeunes soldats du Reich, qui les arrêtent à 3 reprises, puis, voyant qu'il s'agit d'un mariage, leur font vite signe de poursuivre leur route. Ces vénards vont sans doute vers quelques restaurants du côté de Zingen. Un bon dîner les attend avec du champagne, du vin et de vraies cigarettes. Pas ces horribles Rothändel, tout juste bonnes à vous encrasser les poumons. Plus très jeunes les mariés, mais bon, il n'y a pas d'âge pour aimer. D'ailleurs, n'est-ce pas parce qu'ils sont vieux que ces gens peuvent se marier? En cette année 1942, les Allemandes n'ont plus que des barbons de 60 ans à se mettre sous la dent. Les jeunes étalons sont ailleurs, en Russie ou en Cyrénaïque. Les plus chanceux coulent des jours heureux en Grèce ou en France. Là où, paraît-il, le vin coule à flot, les femmes sont chaudes et les clopes poussent dans les arbres. C'est le mariage du siècle, mais de cela les soldats ne s'en doutent pas. Un mariage peu conformiste et même contre nature, wider natürlich. Lesbos et Sodome enfin réunis, sous l'œil attendri de curieux témoins. Jutta, Martin et Jackson semblent sous l'influence de l'alcool et chantent à tue-tête. Tappa lui-même remue les lèvres comme s'il voulait soudain se remettre à parler. À chaque contrôle, à Leipferdingen, Watterdingen et dans la banlieue de Singen, Elisa ouvre la portière, virevolte autour de la voiture, esquisse en claudiquant un pas de danse, ouvre le coffre et remet une bouteille de champagne aux soldats de la patrouille. Violette connaît le coin comme sa poche, puisque c'est celui de son enfance. Celui aussi où, des années durant, elle s'est promenée avec Magda. Elle donne en anglais les indications à Tappa. La nuit tombe quand ils arrivent à Zingen. À la sortie sud de la ville, la mariée demande au vieux chauffeur de couper les lumières, puis soudain d'obliquer dans un chemin de terre qui conduit dans une ferme à l'abandon. Il leur reste 3 heures à attendre avant l'arrivée du contrebandier. Ils en profitent pour se changer en silence, et revêtir les vêtements noirs que Violette leur a préparés. Par chance, elle en a prévu plus que nécessaire. Puis ils se répartissent les armes. Ils n'entendent pas arriver Karl et son chien berger. Tapa est le premier à réagir, mais Elisa arrête son geste quand il sort son poignard. Elle remet l'argent promis au vieil homme, qui ne vérifie pas car il la connaît depuis 40 ans. Il se souvient même de l'avoir fait sauter sur ses genoux au début du siècle. La colonne bientôt s'enfonce dans la campagne. Un épais brouillard est tombé. Le vieux Karl n'en a cure. Il a pris cette route des centaines de fois et en connaît le moindre bosquet. Ils marchent ainsi pendant 2 heures. Soudain, Karl fait signe à Elisa que sa mission est terminée. La frontière est à 300 mètres et Ramsen, la première bourgade suisse, droit devant. Sans le brouillard, ils en apercevraient les lumières, puisque ces privilégiés, de l'autre côté, ne connaissent pas le blackout. Karl serre Elisa dans ses bras, puis disparaît. Il lui faut rentrer chez lui. C'est son chien qui va prendre le relais. Il fera demi-tour dès que le petit groupe aura franchi la frontière. Lui aussi a l'habitude. Elisa ouvre la marche, juste derrière l'animal tenu en laisse. D'autorité, Jackson s'est placé en queue de la colonne. De temps à autre, de lointains aboiements venus des fermes voisines, du côté de Rilasingen ou de Ramsen. Une torche essaie soudain de percer le brouillard, et 3 silhouettes surgissent de derrière un arbre. Halt ! Ils savent ce qu'ils ont à faire. Ne pas s'arrêter, continuer aveuglément à suivre le chien. Un coup de fusil éclate et la lumière disparaît. Kristen Lloyd vient de faire mouche. Des cris se font entendre quelque part dans la brume. Mais le groupe poursuit sa route. Martin aperçoit un Allemand à quelques pas de lui et tire. Mais sa main opérée répond mal et il rate sa cible. Putain de Dupuytren. Tapa, entre-temps, s'est jeté sur l'homme et lui a enfoncé le coucri dans le cœur. Pour la première fois depuis longtemps, le Gurkha a poussé un cri rauque. D'autres voix se font entendre, des coups de feu éclatent. Jackson fait signe aux autres de filer et, de sa mitraillette Bren, arrose au jugé l'obscurité en direction des voix qui se rapprochent. Il s'est placé derrière un arbre et tire une salve au moindre bruit. Le silence s'est fait. Jackson sait qu'il n'atteindra pas la Suisse. Qu'importe. Ce qu'il faut, c'est gagner du temps. Faire croire aux Boches qu'ils sont tous encore là. Il entend le bruit d'un moteur de camion, puis des hurlements. Des lumières trouent de nouveau le brouillard. Il fait feu au jugé et regarde sa montre. Plus d'un quart d'heure déjà que les autres ont filé. Ils doivent maintenant franchir la frontière. Tout à l'heure, ils prendront leur petit déjeuner à Ramsen, en Suisse. À de multiples signes, Jackson sent que l'ennemi se rapproche. Pour se donner encore un peu de temps, il lâche une longue rafale d'un mouvement circulaire et allume une gauloise. Sa dernière cigarette, celle du condamné. Un vieil air gallois lui revient en mémoire. Il sort son revolver et aperçoit soudain la rouquine de Châtellerault qui, sur le pont Henri IV, court vers lui pour se jeter dans ses bras. Puis son fils Michael, le visage rayonnant de joie, qui découvre ses cadeaux au pied du sapin de Noël. Il revoit son père et sa mère, un après-midi ensoleillé de 1905, quelques semaines avant le coup de grisou, alors qu'ils pique-niquent en famille du côté de Kapelseline sur les bords de la Trejuerin. Les images défilent de plus en plus vite et dans le plus grand désordre. Il revoit Kevin Barnes et Karen Blixen, le rift du Kenya et ses flamants roses, et surtout, souvenir plus lumineux encore, la verte vallée de son enfance, là où il a été heureux à l'âge où il se croyait immortel. Et ces fugitives images de bonheur prouvent que tout n'a pas été vain. Jackson n'a que faire de la mort, puisque par son sacrifice, il donne enfin un sens à sa vie. « Pourquoi n'ai-je jamais dit à mon père que je l'aimais » pense-t-il. « Et pourquoi son propre fils a-t-il donc lui aussi omis de le faire ?» La lumière de la cigarette attire une nouvelle rafale qui déchire l'écorce du chêne derrière lequel l'homme s'est mis à l'abri. Le brouillard se dissipe soudain, et Jackson aperçoit, à 50 mètres, la silhouette des soldats allemands qui approchent. C'est la fin de l'opération Bushido. Mais le policier sourit. Le cercan aussi a perdu la bataille. Dommage que Kevin ne soit pas là, à ses côtés, pour la chute du rideau. Le coup de feu troue l'ennemi, suivi des hurlements de la horde. Garde toujours pour toi la dernière balle. Ce qu'ils sont devenus. Les lecteurs attentifs, les autres reliront l'avant-propos, se souviennent que Christian Lloyd est mort à Shillong, Inde, le 8 septembre 1995, jour de son 100e anniversaire. À son retour en Angleterre en décembre 1942, il retrouva ses chats à Totmorden, du moins pour quelque temps, car il connut d'autres aventures qui seront peut-être contées un jour. Il refusa les hautes décorations qui lui furent attribuées, car il ne pardonna jamais au gouvernement anglais de l'avoir jeté en prison en 1940. Son vieux comparse Toulbahadur Tappa eut un arrêt cardiaque en 1952, alors que, au bel âge de 80 ans, il passait la nuit dans un hôtel Bourne de Manchester en compagnie d'une très jeune femme. Kristen repartit alors pour l'Inde. Après Bushido, le colonel Barnes dirigea plusieurs autres missions, quitta Carlisle au début de 1945 et retrouva le Kenya, où il fut bientôt aux premières loges dans la police pour lutter contre les Mau Mau. Il mourut à Mombasa, sa ville natale, en 1973, à l'âge de 85 ans. Arrêté par la Gestapo le 1er octobre 1942, le père Klaus Drucker mourut sous la torture. Son petit-fils, le major Johann Drucker, devint en 1946 chef de service dans un grand hôpital de Francfort, où ses trois filles vivent encore. Le monastère de Horlingern fut détruit par les bombardements américains le 12 juillet 1944. Rasé, il n'en reste plus une seule pierre. Comme elle l'espérait, Jutta Wurtz retrouva le Tanganyika en 1945 et y épousa Rufus Dunstan, l'homme qui l'avait accueilli au début de la guerre. Son frère Martin s'installa à Linz, en Autriche, après la guerre, et y reprit ses activités de critique d'art. Il visita Christian Lloyd en Inde à plusieurs reprises et mourut 3 semaines après sa sœur jumelle, en 1980. Installée en Grèce, Elisa Wagner ne revint jamais en Allemagne. Phyllis O'Brien, rappelons-le, trouva la mort lors d'une mission en Crète en 1944. Alors qu'il sortait du Mandrillo, le 4 juin 1944, Adrian Foster est tombé sous les balles d'un tireur embusqué. Monseigneur Borghese fit une belle carrière dans la diplomatie vaticane jusqu'en 1955, puis se retira en Sicile chez son neveu Pietro, qui, décoré pour héroïsme, était devenu un notable. Le prélat ne reçut jamais le lingot d'or qui lui avait été promis. Frau Breuer, la mère de Rudolf, le conteur de trombone, mourut dans son sommeil au bel âge de 98 ans, c'est-à-dire 18 ans après l'accident de son fils sur la route de Buchenwald. Qu'il me soit permis d'avoir une pensée toute particulière pour le capitaine Stan Jennings de la RAF, présent à mes côtés depuis plus d'un demi-siècle. Il était en effet mon tout premier personnage de fiction, créé en 1954 dans Stand en Autriche, dont le manuscrit dort toujours dans mes archives. Le destin des hauts responsables allemands est connu de tous. L'amiral Wilhelm Canaris, chef de l'Abwehr depuis 1935, fut destitué en février 1944. Compromis dans le complot contre Hitler, quelques mois plus tard, il fut arrêté le 23 juillet, envoyé au camp de Flossenbürg et conduit nu à la potence le 9 avril 1945. Adolf Hitler se suicida dans le bunker de sa chancellerie 21 jours plus tard, le 30 avril, avec Eva Braun qu'il venait d'épouser. Ils furent rejoints dans la mort le lendemain par le docteur Goebbels, chancelier du Reich pendant quelques heures, sa femme Magda et leurs 6 enfants qu'ils avaient empoisonnés. Heinrich Himmler, chef des SS, avala une capsule de poison le 23 mai. Joachim von Ribbentrop fut pendu à Nuremberg le 16 octobre 1946. Battu aux élections de 1945, Winston Churchill assista impuissant à la fin de l'Empire des Indes en 1947 et à la sanglante partition qui, séparant les hindous et les musulmans après des siècles de cohabitation, accompagna l'indépendance. Il fut à nouveau Premier ministre de 1951 à 1955. Quant à Subhas Chandra Bose, son extraordinaire destin, en cette année 1942, ne faisait que commencer. Le 9 février 1943, un sous-marin allemand, parti de Kiel, avec à son bord Bose et son secrétaire, Abid Hassan Safrani, les conduisit, après un voyage de plusieurs semaines, au large de Madagascar, où ils furent pris en charge le 24 avril par un sous-marin japonais. Ce transfert entre deux sous-marins sur une distance aussi longue est sans doute unique dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Bose partagea ensuite son temps entre Tokyo et Singapour, où il prit la tête de l'Indian National Army, INA, et constitua un gouvernement provisoire de l'Inde libre qui déclara la guerre à la Grande-Bretagne. En décembre 1943, il visita les îles Andaman, seul territoire indien occupé par les Japonais. Puis son armée s'engagea à leur côté, notamment en mars-juillet 1944, lors de l'invasion de l'Assam par les troupes nippones, qui fut un échec militaire. Au lendemain d'Hiroshima, il tenta de fuir. Son avion s'écrasa au décollage à Taipei le 18 août 1945. Ironie de l'histoire, en mars 1942, l'agence Reuters et les radios alliées avaient annoncé sa mort dans un accident d'avion. Grièvement brûlé, Bose mourut à l'hôpital militaire japonais quelques heures plus tard. On retrouva dans une de ses poches une balle de revolver, sans doute celle que Christine Lloyd lui destinait. Le corps de Bose fut incinéré dans un temple bouddhiste au Japon. La presse indienne rapporta que Nehru fondit en larmes en apprenant la mort de son compagnon de lutte. Toute l'Inde prit le deuil. Telle est, du moins, la version officielle. En fait, beaucoup d'Indiens refusèrent cette version des faits et la légende s'empara de Netaji. 60 ans après la date vraisemblable de sa mort, beaucoup d'Indiens pensent encore aujourd'hui qu'il survécut à la guerre et vécut en URSS, certains disent en Sibérie, avant de regagner en secret son pays natal. D'aucuns prétendent qu'il ait vécu alors en ermite sous le nom de Bhagwanji, et il serait mort en 1985. Le corps brûlé et défiguré retrouvé dans les décombres de l'appareil à Taïwan n'était pas, disent-ils, celui de Subhas Chandra Bose. Bien qu'il y ait à première vue peu de doutes sur la fin de Bose à Taïwan en 1945, une nouvelle commission d'enquête, la commission Mukherjee, a essayé à partir de 2001 de faire la pleine lumière sur cet accident, mais n'a pas apporté de réponse définitive. Le dossier reste ouvert, et on ne peut exclure que des éléments nouveaux soient découverts un jour, en Inde, au Japon, en Angleterre ou en Russie. Reste que l'on voit mal les raisons qui, dans les années 70 ou 80, auraient interdit à Subhas Chandra Bose de reparaître au grand jour, ne serait-ce que pour retrouver sa femme et sa fille en Europe. Anita, la fille de Bose et d'Emily Schenkel, est née à Vienne le 29 novembre 1942, quelques semaines après les événements racontés dans cet ouvrage. Kapellseelin, le petit village d'Eric Jackson, fut recouvert par les eaux d'un barrage quelques années après la guerre. La courageuse île de Malte, grande héroïne de ce récit, est devenue indépendante en 1965. Note de l'auteur. Un roman appartient, par définition, à un monde parallèle, lequel répond à des lois qui ne sont en rien celles de la réalité. Le lecteur y croise, certes, des personnages historiques, mais c'est que ceux-ci, happés par le mythe qu'ils ont eux-mêmes créé, sont aussi devenus des êtres de fiction. Par nature imparfait, le travail d'un romancier est dérisoire à côté des grandes études historiques, fruits de patientes recherches, et plus encore à côté des témoignages individuels écrits avec le sang de la souffrance. Il arrive cependant, l'écrivain peut du moins l'espérer, que malgré ses fantaisies, ses libertés, ses raccourcis, ses ellipses et ses clins d'œil, l'humble univers de la fiction rejoigne, par les chemins détournés de l'imaginaire, la voie plus impériale de l'histoire.